Je suis dans le chapitre 13 du Lévitique, un passage où il est question des affections malignes de la peau et que j'appelle lèpre même s'il ne s'agit pas précisément de la maladie de Hansen. Le diagnostic de ces maladies était fait par les prêtres et leur méthode était l'examen visuel, un point c'est tout. Ce qui est bien rudimentaire comparé aux moyens dont dispose la médecine moderne. Cependant, même aujourd'hui, un bon médecin peut reconnaître beaucoup de maladies simplement en examinant le patient et avant d'en avoir confirmation par des tests sophistiqués. Les prêtres sacrificateurs voyaient des milliers de cas, ce qui fait qu'à force de pratique, ils devenaient capables de différencier les lésions graves des bénignes. Je continue le texte. Celui-ci, en parlant du prêtre, examinera cette affection de la peau. Si, à l'endroit malade, les poils sont devenus blancs et si la plaie forme une dépression dans la peau, c'est bien un cas de maladie de peau évolutive. Sur la base de l'examen, le prêtre déclarera cette personne impure. Verset 3. Deux signes, donc, décideront en faveur de la lèpre. Les poils de la peau qui blanchissent et la tumeur à creuser la peau. Aujourd'hui encore, les Arabes regardent le mal comme curable quand le poil n'a pas blanchi. Je continue le texte. Mais si la tache blanche ne forme pas de dépression visible de la peau et si le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera le sujet pendant 7 jours. Verset 4. Le prêtre veillait à ne pas arriver à une conclusion trop hâtive. Il devait isoler le malade par une simple proclamation, en vertu de laquelle le sujet ne devait entrer en contact avec quiconque. Je continue. Le 7e jour, il l'examinera. S'il constate que le mal est resté stationnaire sans s'étendre sur la peau, il isolera le malade une 2e semaine. Verset 5. L'examen à la suite de la 1ère semaine n'est pas décisif. Dans le cas le plus favorable, la personne doit à nouveau être mise en quarantaine pendant 1 semaine supplémentaire. Cette précaution pour une anomalie physique est une bonne illustration de la façon noble dont je devrais me conduire vis-à-vis des autres concernant une conduite que je ne comprends pas ou qui m'interpelle. Il ne me faut pas passer un jugement trop hâtif. Un vieux proverbe issu des Indiens américains dit d'ailleurs, je cite, « Ne juge pas ton frère avant d'avoir parcouru 2 kilomètres dans ses mocassins. » En d'autres mots, il me faut être très prudent avant d'évaluer mon prochain de manière à lui faire justice. Je continue le texte. Puis le prêtre procédera à un nouvel examen. Si la partie malade s'est estompée et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclarera cet homme pur. C'est un simple dartre. La personne lavera ses vêtements et sera pure. Verset 6. À la fin de la 2e série de 7 jours, si la partie malade non seulement ne s'est pas étendue, mais a cessé d'être luisante en somme, c'est-à-dire s'est comme éteinte en devenant pâle, c'est une simple dartre et non la lèpre. Le malade, déclaré pur, devra laver ses vêtements car, dit la tradition, la lèpre soupçonnée est elle aussi impure. C'est comme si l'idée même de cette terrible maladie, la simple possibilité que la chose ait pu mal tourner, avait pollué le patient potentiel. En attendant, quelle bonne nouvelle pour cette personne qui est déclarée pure. C'est encore mieux que guéri. Ce n'était qu'une fausse alerte. Je me mets à sa place. Bonjour l'angoisse pendant 15 jours en attendant le verdict du prêtre qui, tel un couperet, aurait pu d'un coup d'un seul supprimer tout ce qui fait bon vivre et la raison même de l'existence. Car être lépreux, c'est pas une vie selon l'expression, mais vraiment une misère noire. Ces règles d'isolement imposées par la loi de Moïse sont quand même extraordinaires et d'avant-garde. Quand on songe qu'en France, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le choléra, la dysenterie, la typhoïde faisaient payer un lourd tribut à la population, car les mesures d'hygiène étaient encore plus que primitive. Les excréments étaient à même la rue et les mouches pullulaient partout. En 1830, l'épidémie de choléra plongea l'Europe dans la désolation. Et ce n'est qu'alors que les premières mesures de quarantaine furent prises à Paris contre la peste, le choléra et la fièvre jaune. Je continue le texte. Mais si la dartre s'étend sur la peau après que le prêtre a examiné la personne et l'a déclarée pure, celle-ci retournera se faire examiner par le prêtre. Si celui-ci constate une extension de la dartre sur la peau, il déclarera la personne impure. C'est une maladie de peau évolutive, versets 7 à 8. En cas d'extension du mal, alors même que le poil ne devienne blanc et que le parti malade ne paraisse en dépression par rapport à la peau qui l'entoure, c'est quand même une affection grave de la peau. Bien des précautions étaient prises afin de ne pas prononcer le verdict terrible par erreur. Mais lorsque le doute n'était plus possible et qu'il fallait protéger le reste de la communauté de la contamination de cette terrible maladie, alors la sentence d'impur, tel un gigantesque coup de massue, était prononcée par le prêtre. Les conséquences pour cette personne et sa famille étaient effroyables, bien pire encore que le cancer aujourd'hui. Le malade, comme je l'ai déjà dit, était exclu de tout ce qui faisait sa vie jusque-là. Il commençait une existence pitoyable de paria, de pestiféré en somme. Je continue le texte. Lorsqu'un homme sera atteint d'une maladie de peau évolutive, on l'amènera au prêtre qui l'examinera. S'il constate une boursouflure blanche sur la peau qui ait fait blanchir le poil et qu'il y ait un bourgeonnement de chair vive dans la tumeur, c'est une maladie de peau infectieuse et chronique. Le prêtre déclarera cet homme impur. Il ne sera pas nécessaire de l'isoler, car il est manifestement impur. Versets 9 à 11. Voici maintenant une situation différente, celle où la maladie est évidente. La période d'incertitude est révolue, le poil a blanchi, la dépression autour de la plaie de chair vive est réelle et apparente. L'excroissance se compose d'ulcères ouverts largement crevassés sur les bords desquels s'élèvent des bourrelets tuméfiés. C'est une lèpre déjà établie. Il est inutile donc de séquestrer le malade pour confirmer la maladie car celle-ci saute aux yeux et est évidente pour tous. Si je poursuis l'analogie de cette affection cutanée avec le mal moral qui ronge l'homme, il est un fait que les méchants impénitents, ceux qui sont coupables des vices ou des crimes les plus voyants, sont en fait bien plus faciles à convaincre de leur culpabilité vis-à-vis de Dieu que monsieur bon chic, bon genre, ou madame Sainte-Nitouche qui se cache derrière les faux semblants de sa propre justice, ses œuvres de charité, sa réputation, ou que sais-je encore. Je continue le texte. Mais si cette affection s'étend sur toute la peau du malade et le couvre de la tête aux pieds, où que porte le regard du prêtre, celui-ci procédera à un nouvel examen. S'il constate que l'éruption couvre tout le corps du malade, il le déclarera pur, puisqu'il est devenu complètement blanc. Il est pur. Versets 12 à 13. Ce passage a priori curieux est également riche en informations parce qu'ici est faite la distinction entre un malade contagieux et un qui ne l'est pas. Si l'éruption vient à s'étendre sur toute la peau, c'est-à-dire que le malade devienne tout blanc et qu'il n'y ait plus de plaies vives, cela prouve que l'affection s'est portée à l'extérieur et que le malade est donc en voie de guérison. Et si cet état se maintient, il faut en conclure que la force vitale du malade, nous dirons son système immunitaire ou bien un miracle, a triomphé du mal et l'a expulsé hors de l'organisme où il n'avait pénétré que provisoirement. Dès que la chair vive ou plaie purulente a complètement disparu, le malade doit être déclaré pur, c'est-à-dire non contagieux. Il peut alors réintégrer son cercle social et participer à nouveau à toute la vie de la communauté. Comme il y a de l'espoir pour le lépreux, Il y en a aussi au niveau spirituel pour celui qui a commis le plus horrible des crimes. L'Éternel est prêt à pardonner à quiconque, quoi qu'il ait fait. Voici en effet ce qu'affirme un prophète de l'Ancien Testament que je cite. « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Fin de citation. Je continue maintenant le texte. « Toutefois, le jour où l'on apercevra sur lui de la chair vive, il devient impur. » Après avoir constaté la présence de cette chair vive, le prêtre déclarera la personne impure. La chair vive est impure. C'est une maladie de peau évolutive. Si la chair vive redevient blanche, la personne retournera auprès du prêtre qui l'examinera. S'il constate que la plaie est effectivement devenue blanche, il déclarera la chair pure et la personne sera en état de pureté. Versets 14 à 17. Le signe principal d'une maladie infectieuse de la peau est cette chair vive dont il est sans arrêt question. Ce mot « chair » a décidément ici, dans le cas d'une affection physique, une connotation très négative. En fait, dans l'ensemble des textes sacrés, ce terme est utilisé dans un sens spirituel pour signifier la nature intrinsèquement mauvaise et rebelle à Dieu que je porte en moi. Voici par exemple deux petits passages du Nouveau Testament qui font mention de la chair dans ce sens. Nous tous aussi, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Le péché habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Fin de citation. Je continue le texte. Si quelqu'un avait sur la peau un abcès qui a guéri, mais qu'à la place de cet abcès apparaisse une boursouflure blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cette personne se fera examiner par le prêtre. Si celui-ci constate un creux dans la peau et un blanchissement du poil, il déclarera cette personne impure. C'est une affection de peau infectieuse qui est en train de bourgeonner dans l'abcès. Versets 18 à 20. Le mot abcès pourrait aussi se traduire par ulcère, furoncle, tumeur ou même inflammation. À cette époque où la médecine était très, très rudimentaire, un seul mot voulait dire toutes sortes d'affections. Quoi qu'il en soit, si les deux mêmes symptômes fâcheux et classiques de la lèpre ou de son équivalent sont présents, c'est-à-dire un creux dans la peau et un blanchissement du poil, alors la chair vive n'est pas loin et le diagnostic sinistre n'est pas loin non plus. Je continue. Mais si à l'examen, le prêtre constate qu'il n'y a pas de poil blanc à cet endroit, ni de creux dans la peau, et que la tache s'est estompée, il isolera le malade pendant 7 jours. Si la tache s'étend sur la peau, il le déclarera impur. Il a une maladie. Mais si la tache est restée stationnaire, sans s'étendre, ce n'est que la cicatrice de l'abcès, alors le prêtre le déclarera pur. Versets 21 à 23. Le fait que l'anomalie demeure localisée dans le voisinage immédiat de l'ancien mal prouve que ce n'est ici qu'une petite inflammation de bon aloi, telle que celle qui accompagne toute cicatrisation. Donc, tout va bien. Dans la suite, il est question d'une brûlure due à des braises ou à des cendres brûlantes. Si le poil a viré au blanc dans la brûlure et qu'il y a une dépression dans la peau, c'est une affection de peau infectieuse et la personne est déclarée impure. Donc le prêtre est amené à faire la différence entre une cicatrice normale et une qui s'est infectée et qui tourne mal. C'est toujours les mêmes processus qui sont répétés et qui doivent être suivis à la lettre. La suite du texte traite des affections de la peau, là où il devrait y avoir des cheveux ou de la barbe, mais d'où ils ont disparu, laissant à nu une espèce de plaie comme lors d'une écorchure. Si on retrouve ces deux symptômes fâcheux, la dépression dans la peau et l'altération des poils, soit par leur couleur qui a viré au jaunâtre, soit parce qu'ils sont clairsemés, il s'agit alors d'une affection localisée mais tout aussi grave et contagieuse que les précédents. Je continue maintenant à lire le texte. Mais si le prêtre constate à l'examen qu'il n'y a pas de dépression visible de la peau, sans toutefois qu'il y ait de poils noirs, il isolera le sujet pendant 7 jours. Verset 31. S'il y a un seul des deux symptômes sinistres, c'est-à-dire ici l'altération des poils dont aucun n'est franchement noir, le cas est douteux, d'où la nécessité d'une séquestration d'une semaine pour voir comment ça va évoluer. Je continue. Le 7e jour, s'il constate que l'éruption ne s'est pas étendue, qu'elle ne renferme pas de poils de couleur douteuse et que la plaie ne semble pas plus profonde que la peau, le malade se rasera, sauf à l'endroit de la plaie, et le prêtre l'isolera de nouveau pour 7 jours. Le 7e jour, il examinera le mal. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau et s'il ne forme pas de dépression visible, il le déclarera pur. Le sujet lavera ses vêtements et il sera pur. Versets 32 à 33. Si l'état de la plaie est stationnaire, un nouvel isolement est nécessaire pour confirmer ou infirmer la bénignité du symptôme. Dans les cas douteux, il est nécessaire que le prêtre prenne tout son temps pour voir si la situation va évoluer ou non. Entre-temps, le patient ne doit pas toucher la plaie et ses environs immédiats de façon à ce qu'on puisse poser un diagnostic digne de foi en fonction de la couleur et de la nature des cheveux ou des poils qui s'y trouvent. Si rien ne bouge, après cette nouvelle semaine d'internement, alors il ne s'agit pas d'une affection grave et transmissible. Le malade est en bonne santé. C'est pas un malade. Les explications continuent avec beaucoup de détails très spécifiques concernant la couleur des poils et ce qu'il faut faire, mais je vous en ferai grâce. Je continue un peu plus loin. Si un homme ou une femme a des taches blanches sur la peau, le prêtre l'examinera. Si les taches sont d'un blanc pâle, c'est une éruption bénigne, le sujet est pur. Versets 38 à 39. Il s'agit ici d'une simple tache blanche appelée exanthème, paraît-il. Cette affection inoffensive porte encore aujourd'hui chez les Arabes le nom de bohak, ce qui veut tout simplement dire être blanc. Elle dure de 2 mois à 2 ans sans causer ni souffrance ni autre inconvénient. Je continue le texte. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie, il est pur, verset 40. Le simple fait de perdre ses cheveux n'est pas une maladie et n'engendre pas d'impureté rituelle. Je continue. Mais si une plaie d'un blanc rougeâtre apparaît dans la partie chauve sur la tête ou sur le front, c'est une maladie de peau infectieuse qui s'est déclarée dans la partie chauve. Si, à l'examen, le prêtre constate que la plaie provoque une boursouflure d'un blanc rougeâtre sur le crâne ou sur le front chauve et qu'elle a l'aspect d'une maladie évolutive de la peau, l'homme a une maladie infectieuse, il est impur, et le prêtre doit le déclarer impur. La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée, elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « impur, impur ». Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. Versets 42 à 46. Maintenant est décrite la condition terrible du lépreux, qui n'est pas sans rappeler ceux qui furent déportés dans les camps de la mort. Les vêtements déchirés, la tête nue et les cheveux libres sont des signes de deuil dans l'Ancien Testament, tout comme se couvrir la barbe jusqu'à la lèvre supérieure. Souvent, dans l'Ancien Testament, c'était les marques d'un homme frappé par Dieu. Le lépreux devra alors crier « impur, impur » tant que durera la maladie. Cette notion d'impureté dans la perspective du monde des Israélites désigne deux aspects distincts. D'une part, l'infection au sens médical du terme et qui se transmet par le contact avec l'objet souillé, soit en le touchant, soit par l'air. Et d'autre part, une corruption morale, car les facteurs physiques et éthiques sont fusionnés dans la vision de l'homme selon la culture hébraïque. L'impureté s'étend partout et se transmet suivant certaines lois. Ainsi, elle pénètre dans un récipient si celui-ci est ouvert, mais n'entrera pas s'il est fermé. Et ainsi de suite. Voilà maintenant terminée cette vue d'ensemble des maladies de la peau qui, rendant rituellement impures, sont aussi des affections visibles et évolutives qui défigurent le corps. Elles sont ainsi propres à évoquer le mal qui corrompt l'homme. Les lois concernant la lèpre rappellent que la maladie en tant que principe actif est une conséquence de l'entrée du péché et du mal dans le monde selon le récit du livre de la Genèse. Tout au long des textes sacrés, on rencontre certaines personnes qui ont été frappées de telles affections en châtiment d'une faute grave, ce qui montre bien que l'offense contre Dieu rend impur à plus d'un titre. Il faut cependant souligner, comme nous le verrons d'ailleurs, que la maladie n'est pas en général la conséquence d'une faute personnelle, loin s'en faut. Et avec ces paroles, je termine pour aujourd'hui.